Chapitre 4. Les fiançailles.
L'emploi des drogues peut être utile pour vérifier l'aptitude d'un aspirant à l'art, mais le maître doit faire preuve de prudence. En petite quantité, une plante appropriée comme la feuille d'ébène, le cinq-sauve, l'écorce de téribane ou la covert peut détendre un candidat, l'ouvrir au sondage d'art et lui permettre d'artiser de façon rudimentaire. Mais, en dose trop forte, elle risque de l'empêcher de se concentrer assez pour manifester son talent. Bien que certains maîtres d'art, fort rares, aient signalé s'être servis avec succès de simples au cours de la formation proprement dite de leurs élèves, les quatre maîtres conviennent que, dans la majorité des cas, d'abord béquilles, ces drogues deviennent des entraves. Sans l'aide de ces produits, les étudiants n'apprennent jamais à mettre convenablement leur esprit dans un état d'art réceptif. En outre, certains indices laissent penser que les disciples formés à l'aide de plantes n'acquièrent jamais la capacité à se plonger en état d'art profond, ni à manipuler la magie complexe qu'on peut alors mettre en œuvre. Le manuscrit des quatre maîtres. Traduction d'Imbre Tombe-Étoile.
« Je n'aurais jamais cru me voir avec des rayures, » grommelai-je de nouveau.
« Cesse donc de te plaindre, » fit le fou,
un bouquet d'épingles serrées entre les lèvres. Il les prit l'une après l'autre pour fixer la petite poche qu'il cousit ensuite en place avec du fil et une aiguille.
« Je te le répète, tu es resplendissant dans cette tenue, et elle s'assortit parfaitement à la mienne. »
« Je n'ai pas envie d'être resplendissant. » Je veux passer inaperçu.
Je renfonçai une aiguille dans la ceinture de mon pantalon et me piquai le pouce. Que le fou se retint d'éclater de rire ne fit que m'irriter davantage. Lui-même était déjà vêtu de façon impeccable et extravagante. Assis en tailleur dans son fauteuil, il m'aidait à munir rapidement ma livrée de poches d'assassin. Sans lever les yeux, il répondit
« Tu passeras inaperçu.
Si on te remarque, c'est ta livrée qu'on se rappellera, non ton visage. Tu resteras de service auprès de moi la plus grande partie de la soirée, et ta tenue te désignera comme mon valet. Elle te dissimulera autant que des habits de domestique peuvent transformer une ravissante damoiselle en simple femme de chambre. Voilà, essaye ceci maintenant. »
Je posai le pantalon et enfilai la chemise. Trois fioles minuscules en os d'oiseau, prélevées sur la réserve d'imbre, emplissaient exactement la nouvelle poche. Invisible une fois la manchette boutonnée. L'autre poignet abritait déjà plusieurs pilules de soporifique puissant. Si l'occasion s'en présentait, j'offrirais une bonne nuit de sommeil au jeune seigneur Brezinga pendant que j'effectuerais une visite de sa chambre. Je m'étais déjà assuré qu'il n'avait pas amené son marguet, du moins que l'animal ne se trouvait pas dans ses appartements, ni logé avec les autres bêtes de chasse du château. Rien ne me disait qu'il ne rôdait pas dans les bois voisins de Castelserre. Dame Brezinga, selon ce que Sire Doré avait appris par les potins de la cour, n'était pas venue assister à la cérémonie de fiançailles, prétextant un méchant tour de rein à la suite d'une chute de cheval pendant une partie de chasse. S'il s'agissait d'une invention, je me demandais pourquoi elle avait cru bon de rester chez elle à Castelmyrte, tout en envoyant son fils représenter son nom. Pensait-elle le placer ainsi, hors du danger, ou au contraire l'y exposer et se protéger elle-même. Je soupirai. Sans fait tangible, il était vain de spéculer. Tandis que je rangeais les fioles de poison dans ma poche de manchette, le fou avait achevé la couture de ma ceinture de pantalon. Il y avait fixé une autre poche, plus solide, destinée à dissimuler une dague fine. Nul ne porterait d'armes visibles durant la cérémonie à venir. Ce serait manquer de courtoisie envers l'hospitalité des loin-voyants. Les assassins n'étaient toutefois pas tenus de se plier à ces subtilités. Comme s'il avait suivi le fil de mes réflexions, le fou me demanda en me tendant mon pantalon rayé.
« Imbre s'embarrasse-t-il encore de toute cette panoplie de poches secrètes et d'armes camouflées ?»«
Je l'ignore, » répondis-je, et je ne mentais pas. Pourtant, j'avais du mal à l'imaginer sans son matériel. L'intrigue était une seconde nature chez lui.
J'enfilai le pantalon et rentrai le ventre pour le fermer. Il était un peu trop serré à mon goût. Je passai la main dans mon dos et, d'un ongle, accrochai la petite garde de la dague. Je tirai l'arme de son étui et l'examinai. Elle provenait du magasin de la tour d'Imbre. De la longueur d'un doigt, elle était munie d'une poignée tout juste suffisante pour la saisir entre le pouce et l'index, mais elle pouvait facilement trancher une gorge ou s'enfoncer entre deux côtes. Je la replaçai dans sa cachette. « Rien n'est visible ?» demandai-je en tournant sur moi-même. Il m'examina, un sourire aux lèvres, puis répondit d'un ton salace.
« Tout est bien visible, mais pas ce dont tu te soucies. Tiens,
mets le doublet, que je vois l'effet d'ensemble. » J'acceptai le vêtement à contre-cœur. Autrefois, un pourpoint et des choses suffisaient pour accéder à n'importe quelle partie de Castelserre, dis-je avec aigreur.
« Tu te racontes des histoires, » rétorqua le fou du tac au tac. « On tolérait ta tenue parce que tu n'étais qu'un enfant et que Subtil ne tenait pas à ce que tu attires l'attention. C'est tout. Je crois me rappeler qu'en une ou deux occasions, Maîtresse Pressée a reçu carte blanche et t'avais tu alors de façon élégante. »
« Une fois ou deux, oui. » Je frémis à ces souvenirs. « Mais tu sais très bien ce que je veux dire, fou. Pendant mon enfance, on s'habillait à Castelserre, ma foi, à la mode servienne. On ne parlait pas de style jamaïlien, on ne voyait pas de ces capbogiennes avec des capuches à la pointe si longue qu'elles traînent par terre. » Il acquiesça de la tête.
« Dans ta jeunesse, Castelserre était plus provincial qu'aujourd'hui. La guerre faisait rage, et quand toutes les ressources sont mobilisées par un conflit, on a moins à dépenser en frivolité. Subtil était un bon roi, mais il lui plaisait de maintenir le caractère rural des six duchés, alors que la reine Kétricaine s'évertue à ouvrir le royaume aux négoces, non seulement avec ses montagnes d'origine, mais aussi avec Jamaïlia, Terrilville et les territoires plus lointains encore. Une telle politique ne peut qu'apporter le changement à Castelserre, et ce n'est pas obligatoirement néfaste.
Le Castelserre d'autrefois avait aussi ses qualités, ronchonnai-je.
Mais changer prouve qu'on est toujours vivant. C'est souvent l'aune qui nous permet de mesurer notre tolérance à l'égard des autres peuples. Sommes-nous capables d'accepter leur langage, leurs coutumes, leurs habitudes vestimentaires, leur cuisine, et de les intégrer à notre vie? Si oui, nous pouvons alors former des liens qui réduisent les risques d'affrontement. Sinon, si nous nous crispons sur la croyance qu'il faut s'en tenir strictement à la tradition, nous devons nous battre pour préserver ce que nous sommes, ou bien périr.
Quel optimisme !
C'est pourtant la vérité. Terrilville a vécu récemment une telle révolution, et elle se retrouve aujourd'hui en guerre contre Calcède. Le motif essentiel de ce conflit, c'est que Calcède refuse d'admettre que le changement est nécessaire. Or, ces hostilités risquent de s'étendre jusqu'au six-duché.
Ça m'étonnerait. Je ne vois pas en quoi nous sommes concernés. Certes, nos duchés du Sud sauteront dans la mêlée parce qu'ils rêvent depuis toujours d'en découdre avec Calcède. Ce sera l'occasion pour eux de grignoter un peu de territoire, mais que l'ensemble du royaume s'engage, non, j'en doute. J'enfilai le pourpoint d'un haussement d'épaule et le fermai. Serré à la taille, il était muni d'un nombre de boutons très excessifs et de volants semblables à des jupes qui descendaient jusqu'à mes genoux. « J'ai horreur de ces fanfreluches chamaïliennes. Comment vais-je attraper ma dague si j'en ai besoin ?»«
Je te connais, tu te débrouilleras. » »« Et permets-moi de te dire qu'à Jamaïlia, tu aurais au moins 3 ans de retard sur la mode. Tu passerais pour un provincial de Terrilville qui cherche à singer la capitale. Mais cela suffira. » Nos tenues renforcent le mythe de mes origines d'aristocrate jamaïlien. Si on accepte mes atours exotiques, on accepte tout le reste. »
Il se leva. Il portait au pied droit un escarpin de danse à dentelle, tandis que le gauche était emmailloté d'un bandage, comme s'il avait une faiblesse à la cheville. Il se munit d'une canne sculptée que je reconnus comme son œuvre. Aux yeux de tout autre, elle donnerait l'impression d'avoir coûté un prix extravagant. Nous étions vêtus de blanc et de violet, comme des navets, selon l'aigre réflexion qui me vint. Si le costume de cire dorée était beaucoup plus élaboré et voyant que le mien, mes manches flottaient à mes poignets
mais les siennes s'achevaient en longs rubans qui lui couvraient entièrement les mains. Sa chemise était blanche, et le pourpoint violet qui lui prenait le torse se terminait par des volants sur lesquels brillaient des milliers de petites perles de jais. Au lieu d'un pantalon, vêtement de domestique, il portait des choses de soie, et ses cheveux tombaient sur ses épaules en longues boucles d'or scintillant. J'ignorais quel produit il avait employé pour parvenir à cet effet tape à l'œil. Enfin, ainsi qu'il était de coutume chez certains nobles jamaïliens, il s'était appliqué au-dessus des sourcils et des pommettes un maquillage bleu qui évoquait des écailles. Il surprit mon regard posé sur lui.
« Eh bien ? » fit-il, comme inquiet.
« Tu as raison. Tu fais un aristocrate jamaïlien tout à fait convaincant. Descendons dans ce cas. Prends mon repose-pied et mon coussin. Ma blessure nous fournira un prétexte pour nous présenter en avance à la grand salle et observer les autres arrivants. Je saisis le petit meuble, coinçai le coussin sous mon bras droit et lui offris le gauche tandis qu'il affectait une claudication très réussie. Comme toujours, il jouait son rôle avec un art consommé, et grâce peut-être au lien d'art que nous partagions, je sentais le vif plaisir que lui procurait cette comédie. Cependant, il n'en laissa rien voir et ne cessa de me réprimander de ma maladresse dans les escaliers. Non loin des immenses portes qui ouvraient sur la grande salle, nous fîmes une courte pause. Sire Doré reprit apparemment son souffle en s'appuyant lourdement sur mon bras, mais le fou me glissa à l'oreille.
« N'oublie pas que tu es un serviteur. De l'humilité, donc, Tom Blaireau. Quoi qu'il arrive, ne regarde personne d'un air provocateur. Ce ne serait pas bien séant. Prêt ?»
J'acquiesçais de la tête, jugeant ses conseils superflus, et remontai le coussin sous mon bras, puis nous entrâmes dans la grande salle. Là encore, je constatais des changements. Dans mon enfance, c'était la pièce où se réunissait tout Castelcerf. Près de cette cheminée, je m'étais assis pour réciter mes leçons à Gérepu, le scribe, pendant que souvent, des groupes se formaient devant les autres foyers. Les hommes occupés à empenner des flèches, les femmes à broder en bavardant, les ménestrels à répéter des chansons ou à en composer de nouvelles. Malgré les feux ronflants alimentés sans cesse par de jeunes domestiques, la grande salle restait dans mes souvenirs toujours un peu froide et humide, et les ombres régnaient dans ses angles. En hiver, les tapisseries et les bannières qui ornaient les murs s'effaçaient dans l'obscurité d'un crépuscule intérieur. La plupart du temps, le pavage glacé était recouvert de roseaux qui moisissaient rapidement. Quand on dressait les tables pour le couvert, les chiens se couchaient entre les tréteaux ou rôdaient tels des requins, affamés entre les bancs dans l'attente d'un os ou d'un croûton de pain. C'était un lieu vivant, animé par le brouhaha sonore des guerriers et des gardes qui racontaient leurs exploits. Le Castelcerf du roi subtil était une place militaire, château et forteresse avant d'être palais royal. Était-ce le temps ou la reine Kétriken qui l'avait changé? Même les odeurs étaient différentes. On y sentait moins le chien et la sueur, et davantage la bonne cuisine et le bois de pomme en train de brûler. La pénombre que les âtres et les bougies de jadis ne parvenaient pas à dissiper avait cédé, quoiqu'à contre-cœur, devant la lumière des lustres suspendus au bout de chaînes argentées au-dessus des longues tables aux nappes bleues. Les seuls chiens que je voyais étaient de petite taille, descendus des genoux de leur maîtresse le temps d'aboyer contre un autre bichon ou de flairer des bottes inconnues. Les roseaux qui tapissaient le sol étaient propres et reposaient sur une couche de sable. Une grande section du milieu de la salle était seulement couverte de sable. Les dessins complexes qui avaient tracé les râteaux en légalisant disparaîtraient bientôt sous le piétinement des danseurs. Nul n'était assis aux tables, pourtant déjà garni de saladiers de fruits mûrs et de panières pleines de miches fraîches. Les taux venus formaient de petits groupes, debout ou assis sur les coussins des chaises et des bancs installés devant les cheminées. Et le bourdonnement de leur conversation se mêlait à la musique qu'égrenait doucement un harpiste sur une scène près du grand âtre. Il émanait de la salle une impression d'attente voulue et soigneusement mise au point. Des rangées de torches, dans de grands supports, illuminaient la haute estrade à gradins.
Leur éclat et les dimensions de la tribune attiraient le regard et proclamaient l'importance de ceux qui allaient s'y tenir. Sur la marche la plus élevée se trouvaient des fauteuils aux allures de trône, destinés à Ketriken, Devoir, Eliania et deux autres personnages. Au degré inférieur, des sièges moins somptueux, mais toujours magnifiques, recevraient les ducs et duchesses du royaume réunis pour assister aux fiançailles de leur prince. Une seconde estrade de même proportion avait été montée pour les nobles qui escortaient Eliania. Le dernier étage était réservé à ceux qui avaient la considération de la reine. À peine fûmes-nous entrés que plusieurs damoiselles ravissantes interrompirent leur conversation avec de jeunes aristocrates et convergèrent sur le seigneur doré. On se fût cru dans un vol de papillons. Les voiles arachnéens paraissaient de mise, mode ridicule, importée de Jamaïlia, qui ne protégeait aucunement du froid permanent de la grande salle, comme j'en eus la confirmation en observant les bras couverts de chair de poule de Dame Jaspe qui s'apitoyait sur le sort de cire dorée. De quand datait cette lubie d'adopter des styles vestimentaires étrangers? Avec réticence, je reconnus avoir du mal à me faire aux changements que je constatais autour de moi. D'abord, parce qu'ils gommaient le Castelcerf de mon enfance. Ensuite et surtout, parce que, devant eux, je me sentais lourdeau et suranné. Avec des caquettements et des roucoulades de basse-cour, les jeunes femmes menèrent mon maître jusqu'à un fauteuil confortable, près d'une cheminée. Docilement, j'installai devant lui le repose-pied garni de son coussin. À cet instant, le juvénile seigneur Chêne s'interposa et, avec un « Laissez-moi faire, mon ami !» autoritaire, il insista pour aider Cire Dorée à étendre la jambe. Je m'écartai, levai les yeux et, sans en avoir l'air, observai un groupe d'outriliens qui venait d'entrer. Ils se déplaçaient à la façon d'une phalange militaire, en bloc, et une fois dans la salle, ils demeurèrent entre eux. Ils me rappelaient les combattants que j'avais affrontés sur l'île de l'Andouillé bien des années plus tôt. Les hommes portaient leurs tenues de cuir et leurs pelisses, et certains des plus âgés arboraient des trophées guerriers. Colliers d'eau de doigts, ou tresses pendues à la ceinture, et composés de mèches de cheveux prélevées sur des ennemis vaincus. Les femmes affichaient une attitude aussi fière. Vêtues de robes de laine tissées, aux teintes superbes et bordées de fourrures uniformément blanches, hermines, renards et ours des neiges. Les outriliennes n'étaient pas des guerrières. Chez les leurs, elles avaient la responsabilité de la terre. Dans une culture où les hommes restaient souvent absents des années à pratiquer la piraterie, elles étaient plus que les gardiennes temporaires de la propriété. Maisons et fermes se transmettaient de mère en fille, ainsi que la fortune de la famille sous forme de bijoux, d'objets ornementaux et d'outils. Les hommes allaient et venaient dans la vie des femmes, mais une fille conservait toujours les liens qui la rattachaient à la maison de sa mère, et ceux d'un fils, à l'égard de sa branche maternelle, étaient plus solides et plus durables que ceux de son mariage. La femme jugeait seule des limites de son union avec un homme. S'il restait trop longtemps, loin de chez lui à guerroyer, elle pouvait prendre un autre époux ou un amant. Or, comme les enfants appartenaient à la mère et à la famille maternelle, peu importait qui était le père. J'étudiais donc ces gens en gardant à l'esprit qu'il ne s'agissait pas de seigneurs, ni d'aristocrates au sens où nous l'entendions. Selon toute vraisemblance, les femmes étaient de grandes propriétaires foncières, et les hommes s'étaient distingués au combat et lors d'opérations de pillage. Alors que je les regardais, je me demandais soudain si le vent du changement était parvenu jusqu'à leur rivage. Chez eux, les femmes n'avaient jamais été les biens personnels des hommes. Celles qu'ils capturaient lors de leur sac, ils les vendaient, mais leurs compatriotes ne faisaient l'objet d'aucun maquignonnage de ce genre. Dans ces conditions, que ressentait un père qui obtenait le droit d'offrir sa fille pour assurer la paix et la liberté commerciale de son pays? Était-ce vraiment celui d'Eliania qui tirait les ficelles, ou bien une famille plus ancienne et plus influente? Mais dans ce dernier cas, pourquoi le cacher? Pourquoi laisser croire que son père agissait de son seul chef? Et pourquoi la maison maternelle n'était-elle représentée que par Péotr? Dans le même temps, j'écoutais d'une oreille distraite les bavardages des femmes qui entouraient Cire Dorée. Deux d'entre elles, Dame Jaspe et Dame Calendule, étaient passées plus tôt dans ses appartements, et à les entendre, je déduisais à présent qu'elles étaient sœurs autant que rivales. Quant à la façon de Sir Chen de s'arranger pour s'interposer constamment entre Dame Calendule et mon maître, elle me portait à me demander s'il ne désirait pas pour lui-même les attentions de la jeune aristocrate. Dame Armery, elle, était plus âgée que ses compagnes, voire plus que moi, et je la soupçonnais de cacher un époux quelque part à Castelserre. Elle affichait l'agressivité assurée de celle qui ne doute pas de son mariage, mais goûte néanmoins l'excitation de la poursuite. En cela, elle me faisait songer à certains chasseurs de renards que j'avais connus. Elle n'avait nul besoin d'attraper sa proie. Elle jouissait simplement de se montrer en mesure de s'en emparer, même face à la concurrence la plus féroce. Son décolleté dévoilait sa gorge plus que de convenance, bien que sa poitrine ne parut pas aussi ferme que celle d'une femme plus jeune, et elle avait une manière presque possessive de poser la main sur l'épaule ou le bras de Sire Doré. Par deux fois, je vis le fou la saisir, la tapoter ou la serrer puis la relâcher délicatement. Dame Armery se sentit sans doute flattée, mais j'eus plutôt l'impression de le voir chasser une peluche de sa manche. Sire Laluic, aristocrate d'âge moyen au visage avenant, vint s'agglomérer à la cour qui entourait le seigneur Doré. Tiré à quatre épingles, il avait des manières aimables et se fit un devoir de se présenter à moi, marque de courtoisie rare envers un domestique, et je m'inclinai avec un sourire. À plusieurs reprises, il me heurta en s'efforçant de se rapprocher de Sire Doré pour s'introduire dans la conversation, mais je lui pardonnais bien volontiers sa maladresse. Chaque fois que je m'excusais en m'écartant, il m'adressait un sourire chaleureux et m'assurait que c'était de sa faute. Les bavardages portaient sur l'entorse du malheureux Sire Doré, la rudesse du guérisseur au cœur de pierre et la tristesse que tous éprouvaient à voir leur cher ami incapable de se joindre à eux sur la piste de danse. Dame Armery en profita pour prendre une longueur d'avance sur ses concurrentes, déclarant, en prenant la main de mon maître, qu'elle lui tiendrait compagnie pendant que ces demoiselles danseraient avec leurs prétendants. Sire Laluic intervint aussitôt. Il serait ravi de se charger de cette tâche auprès du seigneur Doré, car il était lui-même piètre danseur. Le fou répliqua que c'était fausse modestie de sa part et qu'il ne voulait pas avoir la cruauté de priver les dames de Castelserre d'un cavalier aussi gracieux. L'intéressé parut déchiré entre la déception de se voir ainsi écarté et le plaisir que lui procurait le compliment. Avant que la rivalité entre les dames eût le temps de franchir un nouvel échelon, le ménestrel cessa soudain de jouer. Manifestement prévenu par un page qui se tenait près de lui, il se leva et, d'une voix au timbre exercé qui emplit la grande salle et couvrit le brouhaha des conversations, il annonça l'entrée de Sa Majesté Quétriquaine Loinvoyant et du prince Devoir, héritier du trône. Le fou me fit un signe et je lui offris mon bras pour l'aider à se redresser. Le silence s'établit et toutes les têtes se tournèrent vers les portes. Les plus proches reculèrent parmi la foule pour dégager une large allée jusqu'à la haute estrade. La reine Quétriquaine apparut, le prince Devoir à sa droite. Elle avait beaucoup appris depuis la dernière fois où, de nombreuses années auparavant, je l'avais vue faire une telle entrée. Je n'étais pas préparé aux larmes qui me piquèrent brusquement les yeux, et je dus résister de toutes mes forces au sourire triomphant qui menaçait de me tirer les lèvres. Elle était magnifique. Une robe au style plus recherché n'aurait eu pour effet que de distraire l'attention de celle qui la portait. Le bleu de serre contrastait avec la garniture noire qui la bordait, et ses lignes pures mettaient en valeur la minceur et la haute taille de la reine. Quétriquaine se tenait droite, avec la raideur d'un soldat et pourtant la souplesse d'un roseau dans le vent. La masse dorée de sa chevelure était remontée en une tresse qui partait de son front et tombait dans son dos, et la couronne royale paraissait terne sur ses boucles d'or. Nulle bague n'ornait ses doigts, nul collier n'enserrait la colonne pâle de son cou. Sa majesté émanait de sa personne et non de ce qu'elle portait. À côté d'elle, Devoir arborait une simple robe bleue, qui me rappelait la tenue de Quétriquaine et de Rurisque le jour où j'avais fait leur connaissance. J'avais pris les héritiers du royaume des montagnes pour des domestiques. Les Outréliens verraient-ils dans la mise sans ostentation du prince une marque d'humilité ou le signe d'un manque de fortune? Un cercle d'argent était posé sur ses boucles sombres et indisciplinées. Il n'avait pas encore l'âge de coiffer la couronne de roi servant. Jusqu'à ses 17 ans, il restait prince, même s'il était l'unique héritier du trône. Son seul autre bijou était une chaînette d'argent incrustée de diamants jaunes. Ses yeux étaient aussi sombres que ceux de sa mère étaient clairs. Il avait le type loinvoyant, mais sa calme acceptation de son sort, lisible sur son visage, provenait de l'éducation montagnarde que Quétriquaine lui avait donnée. La reine traversa la foule de son peuple avec dignité et simplicité à la fois, car c'est avec une chaleur non feinte qu'elle promena son regard sur l'assemblée. Devoir gardait une expression grave, peut-être parce qu'il se savait incapable de dissimuler son chagrin s'il souriait. Il offrit son bras à sa mère pour gravir les marches de l'estrade, puis ils prirent leur place à la table, mais restèrent debout. D'une voix empreinte de courtoisie et parfaitement audible, Ketriken déclara
« Mon peuple,
mes amis, veuillez accueillir dans notre grand salle la Narcheska Eliania, fille de la lignée Onde Noire des îles des Runes du Dieu. » Je notai avec approbation qu'elle désignait non seulement Eliania par son ascendance maternelle, mais aussi son pays par le nom que ses habitants donnaient aux îles d'outre-mer. Je remarquai aussi que notre reine avait choisi d'annoncer elle-même la Narcheska au lieu de confier ce soin au ménestrel. Elle indiqua les portes d'un geste et toutes les têtes se tournèrent. Le ménestrel répéta l'annonce de l'arrivée d'Eliania, puis déclina les noms d'Arkon Sangrépé, son père, et de Péotre Onde Noire, le frère de sa mère. Sa façon de prononcer ces derniers mots me laissa penser qu'il s'agissait d'un terme unique en outrilien et qu'il s'efforçait d'en traduire au mieux le sens. Puis les invités entrèrent. Arkon Sangrépé venait le premier, figure imposante à la taille encore accentuée par une cape rejetée sur son épaule, coupée dans la fourrure blanc-jaune d'un ours des neiges. Il portait un pourpoint et un pantalon tissé, mais un gilet et une large ceinture en cuir lui donnaient un air martial, bien qu'il n'eût pas d'armes. L'or, l'argent et les pierres précieuses scintillaient sur toute sa personne, à son cou et à ses poignets, sur son front et au lobe de ses oreilles. Des anneaux d'argent ceignaient son biceps gauche, des cercles d'or le droit, certains incrustés de cailloux brillants. Son attitude orgueilleuse transformait ce déploiement de richesse en fanfaronnade voyante. Sa façon de se déplacer combinait la démarche chaloupée du marin et la foulée hautaine du guerrier, et j'eus le pressentiment qu'il n'allait pas me plaire. Il parcourut des yeux la salle avec un grand sourire, comme s'il n'arrivait pas à se convaincre de sa bonne fortune. Son regard passa sur les tables garnies et la foule des nobles pour s'arrêter enfin sur Ketriken qui l'attendait sur l'estrade. Son sourire s'élargit encore comme devant un butin à saisir, et je sus alors qu'il ne me plaisait pas du tout. La Narcheska le suivait. Péotre l'escortait, un pas en retrait sur sa droite. Il portait une simple tenue de soldat, tout en fourrure et en cuir, des boucles d'oreilles et un lourd torque d'or, mais ne paraissait pas prêter attention à ses bijoux. J'observais qu'il adoptait non seulement la place, mais aussi l'attitude d'un garde du corps. Il scrutait la foule avec vigilance. Si quelqu'un nourrissait des intentions malveillantes envers la Narcheska et décidait de les mettre en pratique, il était prêt à tuer l'agresseur. Pourtant, il émanait de lui une aura, non de suspicion, mais de compétence tranquille. L'enfant marchait devant lui, sereine dans son halo protecteur. Je me demandais qui avait choisi sa tenue. Elle portait une tunique courte en laine d'un blanc de neige, une cape retenue sur son épaule par une fibule émaillée en forme de narval bondissant, et une jupe bleue à panneaux dont l'ourlet effleurait le sol. De temps en temps, son pas laissait entrevoir de petites pantoufles de fourrure blanche. Une pince d'argent ramenait sa chevelure noire sur l'arrière de sa tête, d'où elle s'écoulait sur son dos comme une rivière d'encre où scintillaient de minuscules clochettes. Le diadème d'argent aux 100 saphirs brillait sur son front. Elle avançait à sa propre cadence, un pas, un arrêt, un autre pas. Son père, sans en tenir compte, ou peut-être sans même s'être aperçu de rien, s'approcha de l'estrade à grandes enjambées, gravit les degrés, puis dut patienter à côté de la reine Ketriken. Péotre, lui, suivait calmement le rythme d'Eliania. Elle ne gardait pas les yeux fixés devant elle, mais tournait alternativement la tête à droite et à gauche à mesure qu'elle progressait, et elle dévisageait avec intensité ceux qui croisaient son regard, comme pour graver leurs traits dans sa mémoire. Le petit sourire qu'elle affichait paraissait sincère, et cette attitude avait quelque chose d'effrayant chez une enfant si jeune. La petite fille que j'avais vue au bord de la crise de rage avait laissé la place à une présence majestueuse, celle en effet d'une reine en bouton. Quand elle ne se trouva plus qu'à deux pas de l'estrade, Devoir descendit lui offrir son bras. Ce fut le seul instant où je la sentis incertaine. Elle jeta un rapide coup d'œil à son oncle par-dessus son épaule, comme pour l'implorer de lui offrir le sien. J'ignore comment il lui fit comprendre qu'elle devait accepter le geste du prince. J'observais seulement la résignation avec laquelle elle plaça sa main au-dessus du bras plié. Elle ne dut pas s'y appuyer plus lourdement qu'un papillon sur une fleur, alors qu'elle gravissait les marches avec devoir. Piotr les suivit d'un pas pesant, puis, au lieu de prendre place devant un siège, il resta debout derrière celui de la Narcheska. Quand chacun se fut installé, il fallut que la reine insiste d'un geste, appuyé de quelques mots à voix basse, pour qu'il accepte de s'asseoir à son tour. Alors les ducs et duchesses du royaume firent leur entrée, traversèrent lentement la salle et prirent place sur l'estrade prévue pour eux. La duchesse de Béarn apparut la première, accompagnée de son époux. Fidélité avait acquis l'envergure de son titre. Je me la rappelais encore comme une jeune fille élancée qui, une épée ensanglantée à la main, se battait en vain contre les pirates rouges pour sauver son père. Ses cheveux noirs étaient aussi courts et lisses qu'alors. L'homme à ses côtés, plus grand qu'elle, avait les yeux gris et se déplaçait avec la démarche féline d'un guerrier. Le lien qui les unissait était presque palpable, et je me réjouis qu'elle eût trouvé le bonheur. Ensuite vint le duc Kelvar de Ripon, courbé sous le poids des ans, accroché d'une main à un bâton, de l'autre à l'épaule de son épouse. D'âge moyen, Dame Grâce était devenue une femme aux formes arrondies, et sa main posée sur celle de son mari ne le soutenait pas que physiquement. Elle portait une robe et des bijoux très simples, comme si elle avait enfin pris confiance dans sa stature de duchesse de Ripon, et elle accordait son pas sur celui, aujourd'hui hésitant, de l'homme qui l'avait élevé du rang de paysanne à celui d'aristocrate, et envers qui son dévouement était sans faille. Le duc Shemshai de Orfon, désormais veuf, se présenta seul. La dernière fois que je l'avais vu, il se tenait en compagnie du duc Brondi de Béarn, devant ma cellule, dans les cachots de Royal. Il ne m'avait pas condamné, mais il ne m'avait pas non plus jeté son manteau pour me préserver du froid, au contraire de Béarn. Son regard d'aigle n'avait pas changé, et la légère voussure de ses épaules était sa seule concession aux années. Il avait délégué à sa fille et héritière la gestion de la guerre qui l'opposait aujourd'hui à Calcède pendant qu'il assistait aux fiançailles du prince. Le duc Brillant de Bauges entra à sa suite. Il avait mûri depuis l'époque où Royal s'était déchargé sur son étroite carrure de la défense de Castelserre. C'était un homme fait à présent, et je découvrais sa duchesse pour la première fois. L'air moitié plus jeune que son époux quadragénaire, c'était une belle jeune femme mince qui souriait avec chaleur aux nobles mineurs dont elle croisait les regards en gravissant l'estrade. Enfin, le duc et la duchesse de Labour apparurent. Je ne les connaissais pas. La toux sanguine avait ravagé leur territoire 3 ans plus tôt et emporté non seulement le vieux duc, mais aussi ses 2 fils aînés. Je fouillais mes souvenirs pour retrouver le nom de la fille qui avait hérité quand le ménestrel annonça la duchesse Panache de Labour et son époux, le duc Joer. Intimidée par la sonalité de l'occasion, elle paraissait plus jeune que son âge réel, et la main de Joer posée sur la sienne semblait la guider autant que la rassurer. L'estrade réservée aux nobles et aux guerriers outriliens qui avaient accompagné la Narcheska dans son voyage attendait ses invités. La coutume des entrées en grande pompe devait leur être inconnue car ils se présentèrent en groupe compact, montèrent jusqu'à leur table et s'assirent où bon leur semblait en échangeant force sourires et commentaires sous l'œil visiblement réjoui d'Arkon s'engrépé. La Narcheska, elle, paraissait en proie à un conflit entre sa compréhension pour leur attitude et sa contrariété qu'il n'ait pas pris la peine d'observer nos mœurs. Quant à Piotr, son regard passait au-dessus de leur tête, comme s'il ne se sentait pas concerné. C'est seulement quand ils se furent assis que je me rendis compte qu'ils appartenaient au clan d'Arkon, et non de Piotr. Chacun d'entre eux affichait sous une forme, ou une autre, l'image d'un sanglier. Celui d'Arkon était en or moulé sur sa poitrine. Une femme le portait en tatouage sur le dos de la main, et un homme arborait un sanglier en os sculpté sur sa ceinture. Je ne repérais le motif ni sur la Narcheska, ni sur Piotr. En revanche, il me revint à l'esprit le narval bondissant que j'avais vu broder sur les vêtements d'Eliania la première fois que je l'avais aperçu. Sous forme de broche, l'emblème servait aujourd'hui à agrafer sa cape. Une observation approfondie de la tenue de Piotr me révéla que sa boucle de ceinture représentait le même animal, et le tatouage qui ornait son visage pouvait évoquer la défense stylisée d'un narval. Avions-nous donc affaire à 2 clans qui offraient la Narcheska? Il faudrait que j'étudie la question. Ceux qui devaient occuper la table au pied de l'estrade entrèrent avec moins d'apparat. Imbre en faisait partie, ainsi que Laurier, la grand-veneuse royale. Elle portait une robe rouge vif, et je me réjouis de lui voir dévolue une place d'honneur. Je ne reconnus pas les autres, hormis deux, les derniers. C'était exprès qu'Astérie, si je ne me trompais pas, avait choisi de fermer la marche, resplendissante dans une robe verte qui m'évoqua la gorge d'un oiseau-mouche. Elle portait de fins gants de dentelle, comme pour souligner que, ce soir, elle était l'invitée de la reine et non sa ménestrelle, et l'une de ses mains reposait sur le bras musclé de l'homme qui l'escortait. C'était un jeune gaillard de belle allure, bien découplé, au visage ouvert. La fierté que lui inspirait son épouse était manifeste dans son sourire radieux et la façon dont il l'accompagnait. On aurait dit un fauconnier exhibant sur son bras un oiseau de la plus belle qualité. Devant ce jeune homme que j'avais cocufié sans le savoir, j'éprouvais de la honte pour Astérie et moi. Elle souriait, très à l'aise, et quand ils passèrent près de nous, elle me regarda droit dans les yeux. Je me détournais et fixais mon attention ailleurs, comme si je ne la connaissais pas. Son époux ignorait mon existence et je tenais à en rester là. Je ne voulais même pas apprendre son nom, mais mes oreilles perfides l'entendirent néanmoins. Sire pêcheur. Quand le couple se fut assis, la foule s'écoula vers les tables. Je pris le repose-pied et le coussin de cire dorée que j'aidais à gagner sa chaise clopin-clopant et à s'y installer confortablement. Il bénéficiait d'une bonne place pour un noble étranger récemment arrivé à la cour. Il avait dû intriguer pour se trouver ainsi, coincé entre deux couples mariés et d'un certain âge. Sa cour féminine l'abandonna avec moult promesses de revenir lui tenir compagnie pendant le bal. Le seigneur Laluic, lui, au moment de s'éloigner à son tour, s'arrangea pour frotter une dernière fois son postérieur contre ma hanche. Je compris enfin que ces contacts répétés étaient intentionnels, et il remarqua sans doute mon expression saisie, car, en plus d'un sourire, il m'adressa à une œillade discrète. Dans mon dos, Sire Doré eut un petit toussotement amusé. Je regardais l'homme d'un air mauvais et il se hâta de s'en aller. Comme chacun se mettait à son aise et que les serviteurs allaient et venaient en grande tenue dans la salle, le brouhaha des conversations s'éleva. Sire Doré charmait ses compagnons de table par ses propos légers et bien tournés, tandis que je me tenais derrière lui, prêt à répondre à ses ordres, et je parcourais des yeux la foule des invités. Quand je levais le regard vers la haute estrade, je croisais celui du prince et le vis briller de reconnaissance. Je me détournais et il suivit mon exemple, mais je perçus son soulagement et son appréhension qui vibraient dans le lien magique entre nous. Je me sentis à la fois honoré et effrayé de l'importance qu'il accordait à ma présence. Je m'efforçais de ne pas laisser cette impression me distraire de mes devoirs. Je repérais Civil Brezinga. Il partageait une table réservée à la petite noblesse venue de fiefs mineurs de Serres et de Bauges. Je ne vis pas Sidèle, sa fiancée, parmi les femmes qui l'entouraient, et je me demandais s'ils avaient rompu leurs accordailles. Sire Doré avait fait une cour outrageuse à la jeune fille lors de son séjour à Castelmyrte, le château des Brezinga, et c'était de cette discourtoisie ajoutée à l'intérêt apparemment égal qu'il avait manifesté pour le jeune homme qu'était née l'intense aversion de Civil pour lui. Le fou n'avait fait que jouer la comédie, mais l'héritier des Brezinga devait toujours l'ignorer. J'observais que deux jeunes gens au moins paraissaient bien connaître Civil, et je décidai de découvrir leur identité. Dans une assemblée si considérable, la signature vitale de tant d'êtres menaçait de submerger mon vif, et il m'était impossible de déterminer si une des personnes présentes possédait cette magie. De toute façon, si quelqu'un avait le vif, il devait bien le dissimuler. On ne m'avait pas prévenu que Dame Patience serait là. Quand mon regard tomba sur elle, à l'une des plus hautes tables, mon cœur bondit, puis se mit à cogner dans ma poitrine. La veuve de mon père bavardait vivement avec un jeune homme assis à côté d'elle. Du moins, elle parlait. Lui la regardait fixement, la bouche entrouverte, en clignant des yeux. Je ne pouvais le lui reprocher. Moi-même, je n'avais jamais réussi à rester à flot devant le torrent d'observations, de questions et d'avis qu'elle déversait dès qu'elle ouvrait la bouche. Je détournais brusquement le regard, comme si je craignais qu'elle ne prenne conscience de ma présence par son biais, mais, au cours des minutes qui suivirent, je l'examinais à la dérobée. Elle portait les rubis que mon père lui avait offerts, ceux qu'elle avait vendus autrefois, afin de se procurer de quoi alléger les souffrances des habitants de Serres. Ses cheveux grisonnants étaient ornés de fleurs tardives selon une coutume aussi désuète que sa robe, mais son excentricité même m'était chère et précieuse au cœur.
J'aurais aimé pouvoir m'approcher, m'agenouiller devant elle et la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour moi, non seulement durant ma vie, mais aussi alors qu'elle me croyait mort. Cependant, d'une certaine façon, c'était là un souhait égoïste. Alors que je détournais les yeux d'elle, je reçus le second choc de la soirée. Les dames de compagnie et les filles d'honneur de la reine étaient installées à une table qui touchait presque la haute estrade, marque de la faveur royale qui ne tenait aucun compte du rang. J'en connaissais certaines depuis longtemps. Dame Espoir et Dame Pudeur étaient amies avec la reine lors de mon dernier séjour à Castelserre, et je me réjouis de les voir toujours auprès d'elle. De Dame Cœur Blanc, je ne me rappelais que le nom. Les autres, plus jeunes, n'étaient sans doute que des enfants quand je servais jadis ma reine, mais l'une d'elles me parut familière. Avais-je connu sa mère? Puis, quand elle tourna son visage rond et pencha la tête en réponse à quelques plaisanteries, je la remis. Romarin. La gamine potelée s'était transformée en femme rondelette. Elle était autrefois la petite fille d'honneur de la reine, toujours sur les talons de Quatrikaine, toujours présente, enfant au caractère inhabituel, placide et accommodant, qui dormait ordinairement aux pieds de sa maîtresse, pendant que la reine et moi nous entretenions, ou du moins, le croyons-nous. En réalité, elle espionnait Quatrikaine pour le compte de Royal, et non seulement elle lui rapportait tout, mais plus tard, elle avait prêté la main à ses attentats contre la vie de la souveraine. Je n'avais été témoin d'aucune de ces trahisons, mais par la suite, Imbre et moi avions déduit qu'elle seule pouvait être la taupe de Royal. Mon ancien mentor savait, Quatrikaine savait. Comment alors se faisait-il que Romarin fût encore en vie? Qu'elle rit et banqueta tout près de la reine, qu'elle leva son verre en son honneur. Avec difficulté, je détournai mon regard d'elle en m'efforçant de réprimer le tremblement furieux qui me secouait. Je restai un long moment les yeux baissés, à respirer profondément pour me calmer, en attendant que le rouge de la colère se fût effacé de mes joues. Ceci ? La pensée ténue tinta dans mon esprit comme une pièce de monnaie sur du carrelage. Je levai les yeux et vis le regard inquiet du prince posé sur moi. Je lui répondis d'un haussement d'épaule, puis tirai sur mon col comme si la coupe étroite de mon gilet me gênait. Je ne lui répondis pas par l'art. Qu'il eût réussi à m'atteindre malgré mes murailles normalement dressées m'alarmait. Mais, moins que son usage du vif pour véhiculer, comme il l'avait déjà fait, une pensée formée avec l'art. Je ne voulais pas qu'il se serve du vif, et je ne tenais surtout pas à l'encourager à employer les deux magies ensemble. Il risquait de prendre des habitudes impossibles à rompre. J'attendis un petit moment avant de croiser à nouveau son regard troublé et de lui adresser un discret sourire. Je détournai ensuite les yeux à nouveau. Je perçus sa répugnance, mais il imita mon exemple. Que quelqu'un remarque notre petit jeu et se demande pourquoi le prince devoir échanger des regards entendus avec un domestique n'aurait pas du tout fait mes affaires. Le banquet fut somptueux et interminable. Je remarquai que ni devoir ni Eliania ne firent guère honneur au plat, mais Archon sans grépé mangea et but assez pour compenser leur manque d'appétit. À l'observer, je le jugeais bon vivant, doué d'une intelligence acérée, mais dénué du sens de la diplomatie et de la tactique, et incapable d'avoir négocié le mariage de sa fille. L'intérêt tout personnel qu'il portait à Quatrikaine était évident et peut-être flatteur du point de vue autrilien. Mes brefs coups d'œil à la haute table me montrèrent que si Quatrikaine réagissait courtoisement à sa conversation, elle paraissait chercher surtout à s'adresser à la Narcheska. La jeune fille répondait de façon laconique, mais aimable. Elle semblait plus réservée que Mossad. À mi-repas, j'eus l'impression que l'oncle Péotre se dégelait vis-à-vis de Quatrikaine, malgré lui peut-être. Imbre avait sans doute avisé la reine qu'il serait judicieux d'accorder une certaine attention aux frères de la mère de la Narcheska. En tout cas, l'homme y avait l'air sensible. Il commença par étoffer de quelques commentaires les réponses d'Eliania, et bientôt Quatrikaine et lui conversèrent par-dessus la tête de la jeune fille. L'admiration brillait dans les yeux de la reine, et elle l'écoutait avec un intérêt non fin. Eliania, elle, paraissait soulagée de n'avoir plus qu'à manger du bout des dents en hochant la tête aux propos échangés. Devoir, en garçon bien élevé qu'il était, avait engagé la conversation avec Archon sans grépé. Apparemment, il avait compris quelles étaient les meilleures questions à poser pour relancer l'autrilien loquace par nature. À ses gesticulations, je devinais que sans grépé narrait ses prouesses cynégétiques et guerrières. Devoir, lui, prenait l'air impressionné, et il acquiesçait et riait là où il le fallait.
La seule fois où j'accrochais le regard d'Imbre, je désignais Romarin de l'œil et fronçais les sourcils. Mais quand je me retournais vers lui pour voir sa réaction, il était à nouveau en train de bavarder avec sa voisine de gauche. Je grommelais tout bas, mais je savais que les explications viendraient plus tard. Alors que le banquet touchait à sa fin, je sentais la tension monter en devoir. Il souriait trop largement, et quand la reine fit un signe au ménestrel, puis demanda le silence, je le vis fermer les yeux un instant, comme pour se préparer à l'épreuve à venir. Je portai ensuite mon attention sur Eliania. Elle se passa la langue sur les lèvres, et il me sembla l'avoir crispé les mâchoires pour retenir un tremblement. La posture légèrement penchée de Péotre me laissa penser qu'il tenait serré sous la table la main de l'enfant. Quoi qu'il en fût, elle prit une grande inspiration, puis se redressa sur son siège. La cérémonie fut très simple, et je m'intéressai davantage à l'expression de ceux qui y assistaient. Tous les participants s'avancèrent sur le devant de la haute estrade, Ketriken à côté de Devoir, et Harkon s'engrippait près de sa fille. Péotre se posta derrière elle de son propre chef. Quand Harkon plaça la main de sa fille dans celle de la reine, je notai que la duchesse Fidélité plissa les yeux et pinça les lèvres. Peut-être les habitants de Béarn gardaient-ils un souvenir encore vif des souffrances qu'ils avaient endurées pendant la guerre des pirates rouges. La réaction du duc et de la duchesse de Labour fut tout autre. Ils échangèrent un regard empreint d'affection, comme s'ils se rappelaient le jour où ils avaient échangé leurs vœux. Patience ne manifesta rien. Immobile et grave, les yeux lointains. Civil Brezinga eut une expression envieuse, puis il se détourna, comme si le spectacle lui était insupportable. Je ne vis personne observer le couple avec malveillance, même si certains, à l'instar de Fidélité, entretenaient à l'évidence des réticences sur cette alliance. Les mains des deux jeunes gens ne se touchèrent pas. Pendant que celle d'Eliana reposait dans la paume de Ketriken, Devoir et Harkon se serrèrent les poignets à l'ancienne façon de se saluer des guerriers. Chacun parut un peu surpris quand l'outrilien décrocha un anneau d'or de son bras et le referma sur celui de Devoir. Il s'esclaffa ravi en voyant le bijou pendre sur la musculature encore fluette du jeune homme. Devoir réussit à éclater d'un rire bon enfant et leva même le bras pour faire admirer l'ornement à la foule. La délégation outrilienne parut prendre ce geste pour un signe de caractère, car elle se mit à tambouriner sur sa table pour marquer son approbation. Un léger sourire flottait sur les lèvres de Péotre. Était-ce parce que le bracelet dont Harkon avait fait cadeau à Devoir portait gravé un sanglier et non un narval? Le prince venait-il de s'attacher à un clan qui n'avait aucune autorité sur la Narcheska? Ici se place le seul incident qui interrompit le déroulement sans heurts de la cérémonie. Harkon saisit le poignet du prince et le tourna vers le haut. Devoir se laissa faire, mais je remarquais son expression inquiète. Sans paraître s'en apercevoir, Harkon lança d'une voix sonore.
« Qu'on mêle à présent leur sang, en présage des enfants à venir qui le partageront !»
Je vis la Narcheska retenir sa respiration, mais elle ne recula pas pour se mettre sous la protection de Péotre. Ce fut lui qui se rapprocha d'elle. En un geste possessif inconscient, il posa la main sur l'épaule de la jeune fille, et il répliqua d'une voix calme et réfléchie, sans agressivité.
« Ce n'est ni l'heure ni le lieu, Sangrépé. Le sang de l'homme doit tomber sur les pierres d'âtre de la mère de la femme pour que le mélange soit de bon augure. Mais libre à toi d'offrir ton sang aux pierres de la mère du prince, si tu le désires. »
Ces paroles devaient dissimuler un défi, une coutume incompréhensible à nous autres déciduchés, car lorsque Ketriken fit mine d'intervenir pour déclarer qu'un tel geste n'était pas nécessaire, Harkon tendit le bras et remonta sa manche. Puis, nonchalamment, il sortit son couteau de sa ceinture et s'entailla du creux du coude jusqu'au poignet. Tout d'abord, le sang ne fit que sourdre légèrement de l'estafilade. Alors il pressa sur son bras, puis le secoua pour accélérer l'écoulement. Avec sagesse, Ketriken se tut et laissa le barbare accomplir le rite qu'il jugeait approprié à l'honneur de sa maison. Il exhiba sa blessure à l'assistance, et pendant que s'élevait un murmure impressionné, il recueillit son propre sang dans sa main en coupe, puis le projeta sur nous en un vaste geste circulaire, comme une bénédiction écarlate. De nombreux cris s'élevèrent tandis que les gouttelettes rouges mouchetaient les visages et les habits de la noblesse assemblée. Puis le silence retomba quand Harkon Sangrépé descendit de l'estrade. À grandes enjambées, il se dirigea vers la plus vaste cheminée de la salle, où il laissa de nouveau son sang s'accumuler dans sa main, puis le jeta dans les flammes. Enfin, il se pencha pour frotter sa paume ensanglantée sur les pierres du foyer, se redressa, et pendant que sa manche retombait, il écarta les bras devant la foule, attendant une réaction. À leur table, les outriliens de son clan se mirent à marteler le plateau de bois en poussant des hurlements d'admiration. Et au bout d'un moment, applaudissements et acclamations s'élevèrent à leur tour des spectateurs des six duchés. Même Péotr Ondenoir arborait un sourire radieux. Et lorsque Harkon le rejoignit sur l'estrade, ils se serrèrent les poignets devant l'assistance. Je les observais en songeant que leur relation était sans doute plus complexe que je ne l'imaginais. Certes, Harkon était le père d'Eliania, mais je doutais que Péotr lui cédât quelque honneur là-dessus. Toutefois, ainsi face à face comme deux guerriers d'égale valeur, je sentais entre eux la camaraderie d'hommes qui ont combattu l'un à côté de l'autre. Il y avait donc de l'estime entre eux, même si Péotr jugeait qu'Harkon n'avait pas le droit d'offrir Eliania en signe d'alliance. Ces réflexions me ramenèrent à l'énigme principale. Pourquoi Péotr autorisait-il ses fiançailles? Pourquoi Eliania s'y prêtait-elle? Si ce rapprochement lui était favorable, pourquoi sa maison maternelle ne se chargeait-elle pas elle-même de présenter l'enfant et ne se tenait-elle pas ouvertement derrière elle? J'étudiais la jeune fille à la façon que m'avait inculqué Imbre. Le geste de son père l'avait frappée d'admiration, et elle lui souriait, fière de son courage et de la démonstration qu'il en avait donnée à la noblesse des six duchés. Une partie d'elle-même se laissait transporter par la cérémonie, la para, les beaux atours, la musique, les gens assemblés qui n'avaient Dieu que pour elle. Toute cette fièvre et toute cette magnificence lui faisaient envie, mais, au bout du compte, elle désirait aussi retrouver la sécurité d'un environnement familier, vivre l'existence qu'elle avait rêvée dans la maison de ses mères, sur la terre de ses mères. Je me demandais alors comment Devoir pourrait se servir de ce conflit pour gagner sa faveur. Avait-on déjà projeté de le présenter, avec cadeau et hommage, chez les mères d'Eliania? Peut-être le verrait-elle d'un meilleur œil s'il lui manifestait son attention chez elle, devant ses parents du côté maternel. Les femmes appréciaient en général d'être ainsi placées de façon spectaculaire sur un piédestal, me semblait-il. Je mis ces conclusions de côté pour en faire part le lendemain à Devoir, tout en me demandant si elles étaient exactes et si elles lui serviraient. Tandis que je réfléchissais ainsi, Ketriken adressa un hochement de tête au ménestrel, qui fit signe aux musiciens de se tenir prêts. La reine sourit alors, puis échangea quelques mots avec ceux qui partageaient l'estrade royale avec elle. Chacun reprit sa place, et comme les premières notes de musique s'élevaient, Devoir tendit la main à Eliania. La pitié me saisit au spectacle de ces deux enfants jetés en pâture au public, échangés comme des objets précieux pour assurer l'alliance de deux peuples. Les doigts de la Narcheska restèrent au-dessus du poignet de Devoir sans le toucher, tandis qu'il l'escortait jusqu'au sable égalisé de la piste de danse. Dans une brève bouffée d'art, je sentis que le frottement de son col irritait sa nuque humide de transpiration. Mais rien n'en transparut dans son sourire, ni dans sa façon gracieuse de s'incliner devant sa cavalière. Il ouvrit les bras, et elle s'avança juste assez pour lui permettre de lui effleurer la taille du bout des doigts. Elle ne plaça pas ses mains sur ses épaules, comme le voulait la tradition, mais saisit ses jupes et les déploya comme pour faire admirer leur splendeur et la vivacité de son pas. La musique les emporta dans son tourbillon et ils se mirent à danser avec la perfection de marionnettes manipulées par un maître. Ils offraient un spectacle charmant, empreint de jeunesse, de grâce et de promesses. Je parcourus l'assistance du regard et m'étonnais de la vaste palette d'émotions que j'observais sur les visages. Imbre rayonnait de satisfaction, tandis que l'expression de Ketriken paraissait plus hésitante. Je supposais qu'elle espérait en secret voir son fils trouver en sa fiancée un amour authentique en plus d'un solide avantage politique. Harkon s'engrippait, les bras croisés, regardait les deux jeunes gens comme si leur couple représentait le vivant témoignage de son autorité personnelle. À mon instar, Péotr épiait la foule, garde du corps avant tout. Il ne souriait pas, mais n'affichait pas non plus une mine sombre. Par coïncidence, son regard croisa le mien alors que je le dévisageais. N'osant pas détourner les yeux, je pris une expression vide et feignis de ne pas le voir. Son attention se reporta sur Eliania, et l'ombre imperceptible d'un sourire passa sur ses lèvres. Intrigué, Je suivis son regard et je me laissai prendre un instant au spectacle. Accompagnant les pas et les mouvements de la danse, pantoufles et jupes traçaient dans le sable des dessins spiralés. Plus grande que sa cavalière, Devoir se sentait sûrement plus à l'aise de baisser les yeux vers elle qu'Eliania de lever le visage tout en souriant et en gardant le rythme. Les bras tendus, il donnait l'impression d'encadrer le vol d'un papillon tant elle se mouvait avec légèreté devant lui, et je devinais que naissait en moi l'approbation que j'avais lue sur les traits de Péotre sous l'aspect d'un sourire qu'il n'avait pu retenir. Mon garçon ne cherchait pas à s'emparer de la jeune fille. Ses mains se contentaient d'esquisser la fenêtre de sa liberté. Il ne se l'appropriait pas, ne tentait pas de la restreindre. Au contraire, il permettait à tous d'être témoins de sa grâce et de son indépendance. Où avait-il acquis pareille sagesse? Agissait-il sur les conseils d'Imbre, ou bien selon l'instinct diplomatique que certains loin-voyants semblaient posséder? Mais c'était finalement sans importance. Il avait su plaire à Péotre, et un pressentiment me disait qu'il en tirerait profit. Le prince et la Narcheska restèrent seuls sur la piste pour la première danse. Ensuite, d'autres vinrent les rejoindre, ducs et duchesses du royaume et invités outriliens. Fidèle à sa parole, Péotre enleva la jeune fille à Devoir pour la seconde danse, et le prince se retrouva seul. Il réussit néanmoins à paraître à l'aise, un sourire aimable aux lèvres. Imbre échangea quelques mots avec lui jusqu'au moment où une jeune femme d'à peine 20 ans l'entraîna sur la piste. Harkon, sans gréper, eut l'audace de tendre sa main à Ketriken. Je déchiffrai sans mal l'expression qui passa sur les traits de la reine. Elle aurait volontiers refusé, mais cela n'aurait pas été dans l'intérêt des six duchés. Elle descendit donc à son bras de l'estrade. Sans gréper manquait de la délicatesse de Devoir en ce qui concernait les préférences de sa cavalière. Il saisit franchement la souveraine par la taille, l'obligeant à se retenir à ses épaules pour suivre son pas enlevé, sous peine de partir dans un tournoiement impossible à maîtriser. Ketriken dansa joliment, le sourire aux lèvres, mais je doute qu'elle se fût vraiment amusée. Le troisième morceau était plus lent, et je vis avec plaisir Imbre abandonner sa jeune cavalière, malgré sa moue implorante, pour inviter Madame Patience. Elle agita son éventail, prête à refuser, mais le vieil homme insista, et elle en fut secrètement heureuse, je le savais. Elle se montra aussi gracieuse que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle n'était jamais tout à fait dans le rythme, mais Imbre, souriant, la guida d'une main sûre, d'un bout à l'autre de la piste, et je trouvais sa cavalière à la fois adorable et charmante. Péotre se porta au secours de Ketriken qu'il réussit à distraire de l'attention de Sangrépé, lequel s'en alla danser avec sa fille. La reine paraissait plus à l'aise avec le vieil homme d'armes qu'avec son beau-frère. Ils bavardèrent tout en suivant la cadence, et le vif intérêt que je vis briller dans les yeux de Ketriken n'était pas fin. Je croisai un instant le regard de Devoir. Je savais à quel point il se sentait mal à l'aise, planté sur la piste, à faire tapisserie pendant que sa fiancée tournoyait dans les bras de son père. Toutefois, à la fin de la danse, j'eus l'impression que Sangrépé s'en était lui aussi rendu compte et avait pris le jeune prince en pitié, car il lui remit avec fermeté sa fille pour la suivante. La soirée se continua ainsi. Pour la plupart, les nobles outriliens choisirent leurs cavaliers parmi leurs compatriotes, encore qu'une jeune femme se montra assez hardie pour aborder Sir Shemshai. À mon grand étonnement, le vieillard parut flatté, et il dansa, non pas une fois, mais 3 fois avec elle. Quand les évolutions en couple s'achevèrent et que commencèrent les contredanses, la grande noblesse regagna ses places et céda la piste à la petite aristocratie. Pour ma part, je passai la majorité du temps debout sans bouger, à observer la salle. Toutefois, à de nombreuses reprises, mon maître me chargea de missions qui consistaient en général à transmettre à des dames ses salutations et ses regrets sincères de ne pouvoir les inviter à danser à cause de sa blessure. Plusieurs vinrent en groupe s'apitoyer sur son sort. Durant toute cette longue fête, je ne vis pas une fois Civil Brezinga poser le pied sur la piste de danse. Dame Romarin s'y rendit, en revanche, et fut même, en une occasion, la cavalière d'Imbre. Je les regardais parler, elle avec un sourire espiègle, lui avec une expression neutre mais courtoise. Dame Patience se retira de bonne heure, comme je m'y attendais. Elle ne s'était jamais sentie vraiment à l'aise au milieu de la pompe et de la société de la cour. Devoir aurait dû s'estimer honoré qu'elle eût pris la peine de se déranger. La musique, la danse et le banquet se poursuivirent par-delà les abysses de la nuit, jusqu'au haut fond de l'aube. Je tâchais d'inventer un prétexte pour m'approcher du verre ou de l'assiette de Civil Brisinga, mais en vain. La soirée perdit peu à peu de son allant. J'avais les jambes douloureuses à force de rester debout, et je songeais avec accablement à mon rendez-vous matinal avec le prince de Voir. Il ne s'y présenterait sans doute pas, et pourtant je devrais l'attendre au cas où il viendrait tout de même. Que j'avais donc été stupide. Il aurait mieux valu repousser la leçon de quelques jours et en profiter pour retourner à ma chaumine. Sir Doré paraissait infatigable. Alors que les heures passaient et qu'on écartait les tables pour agrandir l'espace de danse, il s'était trouvé une place confortable près du feu et y tenait sa cour. Nombreux et variés étaient ceux qui venaient le saluer, puis s'attardaient à bavarder. À cette occasion, j'eus la preuve encore une fois que le fou et Sir Doré étaient deux personnages bien distincts. L'aristocrate se montrait spirituel et charmant, mais il ne manifestait jamais l'humour acéré du fou. Il avait aussi une attitude typiquement jamaïlienne, extrêmement courtoise, mais aussi parfois intolérante à l'égard de ce qu'il appelait sans embâge les idées attardées des ciduchés, sur ses mœurs et ses habitudes. Il discutait mode et bijoux avec une cruauté implacable pour ceux qui n'appartenaient pas à son cercle de favoris. Il faisait une cour éhontée aux femmes, mariées ou non, buvait excessivement et refusait la fumée qu'on lui offrait, répondant avec dédain que seules les feuilles de la meilleure qualité ne le laissaient pas nauséeux le matin et que sa fréquentation de la cour du gouverneur l'avait sans doute rendu difficile. Il parlait de la lointaine Jamaïlia et de ce qui s'y passait avec tant d'aplomb que je finis par me convaincre qu'il y avait non seulement résidé, mais était familier de la cour. Et comme la soirée s'avançait, des brûleurs à fumer, devenus populaires au temps de Royal, commencèrent à faire leur apparition. La mode actuelle les voulait réduits, petites cages de métal qui, suspendues à des chaînettes, renfermaient de minuscules récipients où se consumait la drogue. Les nobles les plus jeunes et quelques dames en arboraient des personnels, portatifs, attachés à leurs poignets. Ça et là, des domestiques diligents imprimaient des mouvements de pendule aux encensoirs pour envelopper leurs maîtres des vapeurs qui s'en échappaient. Je n'avais jamais bien supporté cette drogue. En outre, elle restait associée pour moi au souvenir de Royal, ce qui me portait encore moins à l'apprécier. Pourtant, même la reine s'y adonnait, quoique modérément, car la fumée était connue dans les montagnes comme dans les ciduchés, bien que les plantes employées fussent différentes. Autre plante, même appellation, mêmes effets, me dis-je, le cerveau un peu vague. Ketriken était remontée sur la haute estrade. Je vis qu'elle avait les yeux brillants, malgré la brume qui flottait dans la salle. Elle bavardait avec Péotr, qui souriait et répondait, mais sans jamais quitter des yeux Eliania, que de voir pilotait dans un quadrille. Harkon Sangrépé les avait rejoints sur la piste et passait de cavalière en cavalière. Il avait ôté sa cape, ouvert sa chemise et dansait avec entrain, même si la fumée et le vin rendaient son rythme parfois un peu incertain. Ce fut, je pense, par commisération pour moi que Sir Doré annonça enfin que la douleur de sa cheville le fatiguait et qu'il devait se retirer, à son grand regret. On le pressa de rester et il feignit d'y songer, mais répondit que son entorse l'incommodait trop. Il lui fallut néanmoins une éternité pour faire ses adieux, et quand je pus finalement me charger de son repose-pied et de son coussin pour l'escorter hors de la salle, nous nous fîmes arrêter encore à 4 reprises au moins par des invités qui tenaient à souhaiter la bonne nuit à mon maître. Lorsque nous fûmes parvenus lentement en haut des escaliers et que nous entrâmes dans ses appartements, j'avais une vue beaucoup plus nette de sa popularité à la cour. Une fois que j'eus bouclé la porte, j'alimentai le feu mourant, puis je me servis un verre de vin et m'effondrai dans un fauteuil près de la cheminée tandis qu'il s'asseyait par terre pour défaire son bandage. « Je l'avais trop serré. Regarde mon pauvre pied, presque bleu et tout froid. »« Bien fait pour toi, » fis-je sans la moindre compassion. Mes vêtements empestaient la fumée. Je soufflais par le nez dans l'espoir de me débarrasser de l'odeur, puis je regardais le fou occupé à masser ses pieds nus, et j'éprouvais soudain un profond soulagement à retrouver mon ami. « Comment as-tu inventé ce personnage de Sir Doré? Je crois n'avoir jamais connu d'aristocrate plus médisant et dépourvu de moralité. Si je ne t'avais pas connu avant ce soir, je t'aurais méprisé de tout mon cœur. Tu me faisais penser à Royal. »«
Vraiment ?» « Ma foi, cela tient peut-être à ma conviction qu'on peut toujours apprendre de toutes les rencontres. »
Il bâilla à s'en décrocher la mâchoire, se pencha en avant jusqu'à toucher ses genoux de son front, puis en arrière, jusqu'à ce que ses cheveux défaits effleurent le plancher. Enfin, sans effort apparent, il se redressa. Il me tendit la main,
Je l'aidai à se relever, et il se laissa tomber dans un fauteuil près du mien. Se montrer acerbe est un excellent moyen d'inciter les autres à exposer leurs opinions les plus mesquines et les plus noires.
Sans doute, mais quel intérêt?
Il prit le verre que je tenais.
Rustre insolent, voler le vin de ton maître, va te chercher un autre verre.
Et comme j'obéissais, il reprit. En fouillant dans cette méchanceté, je découvre les ragots les plus ignobles de Castelserre. Qui est grosse de tel seigneur marié, qui est criblé de dettes, qui s'est montré imprudent et avec qui est soupçonné d'avoir le vif ou d'entretenir des relations avec quelqu'un qui l'a.
Je faillis renverser mon vin. Et qu'as-tu appris?
Ce à quoi il fallait s'attendre, rien de plus, répondit-il d'un ton rassurant. Pas un mot sur le prince, ni sa mère, nulle rumeur sur toi. Un intéressant potin, selon lequel Civil Brezinga a rompu ses fiançailles avec Sidèle Omble parce qu'elle serait issue d'une famille douée du vif. Un orfèvre vifié, avec son épouse et ses 6 enfants, a été chassé de Bourg de Castelserre la semaine dernière, et Dame Ezomal est très contrariée, car elle venait de lui passer commande de 2 bagues. Ah oui, Dame Patience abrite dans sa tenure 3 gardeuses-doigts qui ont le vif, et peu lui chaud qu'on le sache. Comme un oubliot, cousin d'un dignitaire quelconque, accusait l'une d'elles d'avoir jeté un sort à ses faucons, Dame Patience lui a répondu que non seulement le vif n'opérait pas ainsi, mais que, s'il continuait à lancer ses faucons sur ses tourterelles, elle lui ferait donner une cravachée, quand bien même il serait le cousin de la reine.
« Toujours aussi prudente et mesurée, Patience, » dis-je en souriant, et le fou acquiesça de la tête. Je repris mon sérieux. Mais si la vague d'intolérance contre les vifiés continue de monter, Patience risque de se retrouver en danger, à prendre ainsi parti pour eux. J'aimerais parfois qu'elle fasse preuve d'autant de circonspection que de courage.
« Elle te manque, n'est-ce pas ?»
demanda le fou à mi-voix.
Je soupirai.
« Oui, c'est vrai. »
Rien que l'avouer me nouait la gorge. Ce n'était pas seulement qu'elle me manquait. J'avais l'impression de l'avoir abandonnée. Ce soir, c'était une femme déclinante que j'avais vue, sans plus personne au monde hormis ses domestiques, fidèle, mais vieillissant.
Pourtant, tu n'as jamais envisagé de lui apprendre que tu avais survécu, que tu étais toujours en vie.
Je secouai la tête. Non, pour le motif que je viens de mentionner. Elle n'a aucune prudence. Non seulement elle crierait la nouvelle sur tous les toits, mais elle menacerait sans doute de bastonnade ceux qui refuseraient de partager sa joie. Cela, après m'avoir passé un copieux savon, naturellement.
Naturellement.
Nous sourions tous les deux, de ce sourire doux amer qui monte aux lèvres, quand on imagine une scène à laquelle le cœur aspire, mais que la raison redoute. Le feu brûlait devant nous, et des langues de flammes léchaient la bûche que j'y avais ajoutée. Derrière les volets clos, le vent soufflait, annonciateur de l'hiver. Un sursaut de réflexes anciens me fit songer à toutes les tâches que je n'avais pas accomplies en prévision de sa venue. Je n'avais pas fini la récolte du potager, ni fait moisson d'herbe des marais pour le fourrage de la ponette. Mais c'étaient les préoccupations d'un autre homme dans une autre vie. Installé à Castelserre, je n'avais plus à m'en soucier. Pourtant, au lieu d'éprouver de la satisfaction, je me sentais dépouillé.
Crois-tu que le prince viendra me retrouver à l'aube dans la tour de vérité?
Le fou avait les yeux clos, mais il tourna la tête vers moi.
Je l'ignore. Il dansait encore quand nous sommes partis.
Il faudra malheureusement que je m'y rende à l'heure dite, au cas où il se présenterait. Je regrette ce rendez-vous, je dois absolument retourner à la chaumière pour y effacer toutes mes traces.
Il émit un bruit, mi-assentiment, mi-soupir, puis il remonta les pieds sur son fauteuil, les genoux presque sous le menton, comme un enfant.
« Je vais me coucher, » déclarai-je. « Tu devrais en faire autant. » Il poussa un grognement. Je gémis, puis me rendis dans sa chambre, y pris un dessus de lit que je rapportais près du feu et drapais sur lui.
« Bonne nuit, vous. »
Il me répondit d'un profond soupir en resserrant le couvre-lit sur lui. Je soufflais toutes les bougies sauf une qui me servit à m'éclairer pour gagner ma chambre. Je la posai sur mon petit coffre à vêtements et m'assis sur mon lit dur avec un gémissement. Ma vieille blessure dans le dos et toute la région qui l'entourait me faisaient souffrir.
Rester debout sans bouger l'avait toujours réveillé bien davantage que monter à cheval ou travailler dans ma ferme. Il faisait froid dans le réduit que j'occupais, et l'air trop immobile sentait le renfermer, vicié par les odeurs accumulées au cours des siècles. Je n'avais pas envie de dormir là. Je songeais à monter à l'atelier d'Imbre pour m'étendre sur le grand lit moelleux. Cette perspective m'aurait souri s'il n'y avait pas eu tant de marches à gravir. J'ôtai mes beaux vêtements et fis l'effort de les plier convenablement. Comme je m'enfouissais sous ma couverture, je décidai de demander de l'argent à Imbre pour m'en acheter une autre moins agressivement râpeuse. Et puis, de voir ce que devenait Heure. Et aussi de m'excuser auprès de Gina de ne pas m'être présenté chez elle ce soir, comme je l'avais promis. Et de détruire les manuscrits restés dans ma chaumine. Et d'apprendre les bonnes manières à ma jument. Et d'enseigner au prince l'art et le vif. Je poussai un long soupir par lequel j'évacuai tous mes sujets de préoccupation et sombrai dans le sommeil. Fantôme de loup. Le contact manquait de puissance. On eût dit de la fumée portée par le vent. Ce n'était pas mon nom. C'était le nom par lequel quelqu'un me désignait, mais cela ne m'obligeait pas à y répondre. Je me détournai de l'appel. Fantôme de loup. Fantôme de loup. Fantôme de loup. L'image me vint de Heure qui tirait sur le bas de ma chemise quand il était enfant, avec insistance et persévérance, agaçant comme le zonzon d'un moustique dans la nuit. Fantôme de loup. Fantôme de loup. Pas moyen de faire taire la voix. Je dors. Et avec la logique insolite du songe, je compris soudain que c'était le cas. Je dormais et je faisais un rêve. Les rêves n'ont pas d'importance, en principe. Moi aussi, c'est le seul moment où j'arrive à te contacter. Tu ne le sais pas ? En lui répondant, j'avais apparemment renforcé son émission, et j'avais presque l'impression qu'elle s'accrochait à moi. Non, je ne le savais pas. Je promenais paresseusement mon regard autour de moi. Le paysage m'était vaguement familier. C'était le printemps, et non loin de moi, des pommiers croulaient sous les fleurs parmi lesquelles bourdonnaient des abeilles. Je sentais de l'herbe moelleuse sous mes pieds nus et une brise légère jouait dans mes cheveux. Je m'introduis si souvent dans tes rêves pour y observer ce que tu fais que j'ai eu envie de t'inviter dans l'un des miens. Il te plaît ? Il y avait une femme près de moi. Non, une jeune fille. Enfin, quelqu'un. Je la distinguais mal. Je voyais sa robe, ses petits souliers de cuir et ses mains hâlées, mais le reste demeurait flou. Je ne discernais pas ses traits. Quant à ma propre personne, elle était étrange. Je pouvais m'examiner moi-même comme si je me trouvais hors de mon corps, mais je n'avais pas sous les yeux l'image que me renvoyait habituellement le miroir. J'avais les cheveux ébouriffés. J'étais beaucoup plus grand que ma taille réelle et beaucoup plus robuste aussi. Ma crinière hirsute et grise tombait dans mon dos et pendait sur mon front. Mes ongles étaient entièrement noirs, et je sentais dans ma bouche mes canines exagérément longues. L'inquiétude me rongeait. Il y avait du danger, mais pas pour moi. Pourquoi n'arrivais-je pas à me rappeler ce qu'était cette menace ? Ce n'est pas moi, ça. Je ne ressemble pas à ça. Elle éclata d'un rire empreint d'affection. Ma foi, comme tu ne me laisses pas voir de quoi tu as l'air, il va falloir t'habituer à l'aspect que je te prête. Fantôme de loup, où étais-tu passé ? Tu m'as manqué et j'ai eu peur pour toi. J'ai perçu ta grande douleur, mais j'ignore ce qui l'a provoquée. As-tu été blessé ? Je te sens moins complet et tu parais là et plus âgé. Vous m'avez manqué, tes rêves et toi. Tu ne venais plus et j'ai cru que tu étais mort. C'était affreux. Il m'a fallu un temps fou pour m'apercevoir que je pouvais aller à toi au lieu d'attendre que tu viennes. Elle était bavarde comme une enfant. Un effroi bien réel et qui ne devait rien à mon imagination montait peu à peu en moi. J'avais l'impression qu'une brume glacée s'insinuait dans mon cœur. Et tout à coup, dans le rêve, je vis de la brume s'élever autour de moi. Sans savoir comment, je l'avais fait apparaître, alors consciemment. Je l'ai voulu plus dense, plus opaque, et je m'efforçais de mettre ma visiteuse en garde. « Ce que tu fais n'est pas bien, et c'est dangereux. Ne m'approche pas. Reste à l'écart de moi. »«
Ce n'est pas juste !»
s'exclama-t-elle d'un ton plaintif,
tandis que la brume formait un mur entre nous. Ces pensées me parvinrent moins distinctement.
« Regarde l'état de mon rêve, maintenant. Je me suis donné un mal de chien pour le créer et tu l'as gâché. Où t'en vas-tu? Mal élevé. »
Je me dégageais de son étreinte défaillante et constatais que j'étais libre de me réveiller. D'ailleurs, j'étais déjà réveillé, et un instant plus tard, je m'assis au bord de mon lit. Je me passais les doigts dans les cheveux pour redresser ce qu'il en restait. J'étais encore en train de me préparer à l'assaut d'une migraine d'art quand elle jaillit du creux de mon estomac et heurta violemment le sommet de mon crâne. Je respirais profondément, calmement, résolu à ne pas vomir. Le temps passa. Une minute ou 6 mois, je n'en sais rien. Puis, j'entrepris de renforcer laborieusement mes murailles mentales. Avais-je fait preuve de négligence? S'était-elle détériorée sous l'effet de la fatigue ou de la fumée? Ou bien, tout simplement, ma fille était-elle assez forte pour les franchir?